Je vous invite à vous tourner avec moi dans le livre de Néhémie, au chapitre 3. Chapitre 3 de Néhémie. C'est vrai que c'est un passage qui, au premier abord, peut paraître un peu rebutant, dans le sens où il y a beaucoup de noms, il y a plus de 50 noms cités, et ça décrit du travail, dans le détail. Et un peu comme les généalogies, des fois on a envie de se dire « bon, ben, il n'y a pas grand-chose d'intéressant ». Et pourtant, quand on prend la peine de lire et de réfléchir, le Seigneur nous donne des leçons, nous donne des encouragements, nous annonce toujours son évangile, le salut par la grâce en Jésus-Christ. Et donc je vous exhorte à lire la parole de Dieu, la Bible, du début à la fin, sans sauter les passages. C'est un passage important aujourd'hui parce que Dieu fait que nous l'étudions aujourd'hui. Donc il a sans doute des choses à vous dire dans votre vie, dans vos projets, dans votre façon de vivre votre vie. Et en même temps, on voit combien Dieu est un Dieu personnel. Le fait qu'il ait choisi de nommer des personnes par nom, des fois en indiquant le lieu où ces personnes habitaient, qu'est-ce qu'elles faisaient, ça nous rappelle que Dieu est un Dieu présent. C'est pas un Dieu qui a mis en route la création par l'évolution et qui laisse la montre aller jusqu'à la fin, afin que le ressort soit complètement détendu et puis on passe à autre chose. Non, Dieu est un Dieu d'amour qui nous connaît personnellement, qui sait exactement ce qui se passe dans chacune de nos vies, qui sait nos combats, qui sait nos péchés, qui connaît nos péchés, qui veut nous encourager parce qu'il nous aime, d'un amour infini. Et là, on va voir le travail qui prend place après que Néhémie, je vous rappelle qu'il avait eu ce fardeau pour cette ville de Jérusalem, la ville de ses ancêtres qui était détruite. Comment il avait prié, comment il avait jeûné, comment il avait sauté sur l'occasion lorsque le roi lui avait demandé qu'est-ce qui se passait dans sa vie. Comment Dieu lui avait donné la faveur, comment il lui avait donné des provisions et des matériaux pour reconstruire cette muraille, comment il lui avait même donné des visas ou des permis de construire. On sait que quand on construit quelque chose, maintenant il y a tout un tas de législations à suivre. On va bientôt avoir cet anniversaire. On aimerait bien, on ne sait pas si on aura le temps, repeindre la façade de l'église qui est sale par endroits, repeindre des portes peut-être. Et suivant la façon dont on décrit les choses, il faut un permis, il faut des autorisations, ou alors on peut passer à côté. Si on veut repeindre d'une couleur différente, il faut des autorisations. Ça passe auprès des architectes de la ville de Nice pour pas qu'il y ait un mur fluo vert, bien même que certains restaurants ou locaux commerciaux ont des couleurs un peu bizarres. On peut pas le faire sans passer par une demande de permis qui va prendre du temps et qui va prendre des semaines d'approbation, etc. Alors que si on dit qu'on fait juste, on rafraîchit la peinture, c'est pas de problème. Et là, on va voir que là aussi, ils avaient obtenu tous ces permis grâce au roi, et donc ils s'activent. On a inauguré ces locaux en 2004. Et là aussi, on avait beaucoup travaillé, et un peu à la façon du livre de Néhémie. D'ailleurs, on avait étudié à cette occasion le livre de Néhémie, parce que c'est un livre qui inspire la coopération, l'unité dans le travail. Et il y en a quelques-uns encore ici qui se rappellent les heures et les jours passés à refaire les murs, à refaire les piliers, à peindre, à mettre la moquette qui a besoin bientôt d'être changée, à faire des installations de tuyauterie, de... Il y a tout un travail qui se fait, qui a besoin d'être fait. Et là, ça se passe dans le cas de la réparation de la muraille des murailles de Jérusalem. On va d'abord voir la description historique. Tous les détails nous montrent que Néhémie était présent. C'est pas encore une jolie allégorie, c'est quelque chose de très concret, de très pratique. Et puis, on peut en tirer aussi des leçons spirituelles. On a déjà parlé de l'analogie, la reconstruction des murailles de nos vies. On n'a pas besoin d'une muraille en pierre, mais on a besoin de mettre une haie de protection autour de notre vie, de notre cœur. Il faut garder notre cœur parce que de lui viennent les sources de la vie. Ce sur quoi nous pensons va se manifester par dehors, au dehors de notre vie. Et donc on va regarder ensemble. On va faire le tour de Jérusalem de l'époque avec, en partant de la porte des brebis jusqu'à revenir à la porte des brebis. Ça nous convient bien, nous qui sommes des brebis, les brebis du Seigneur. Il n'y a pas d'autre document dans l'histoire qui donne autant de détails sur la topographie, sur la géographie de Jérusalem. Les portes, si elles ne sont pas encore retrouvées aujourd'hui, il suffit d'attendre souvent quelques années pour qu'on retrouve des vestiges. L'archéologie vient toujours renforcer, affirmer ce qui est dans la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu est la vérité. Au point que certains se sont dit, si c'est dans la Bible, ça doit être dans le monde, ça doit exister. Et c'est ainsi que la plus grande fortune du monde, la fortune Rockefeller, on dit riche comme Rockefeller aujourd'hui, on le disait de mon temps, quand j'étais plus jeune. Maintenant on dit riche comme Bill Gates. Il connaissait la parole de Dieu, il avait été élevé comme un chrétien, il s'était dit, on parle de poids, on parle de bitume dans la Bible, il doit y avoir des hydrocarbures là-bas. Il a commencé à faire des recherches, et il a trouvé le pétrole au Moyen-Orient, qui a fait la fortune de la compagnie qu'il a créée, Esso, Exxon, la famille Rockefeller. La Bible est digne de foi. Les critiques se retrouvent toujours dans l'erreur. Ceux qui ne croient pas que la parole de Dieu est inspirée et véritable. L'idée d'avoir des murailles autour des cités, c'est une vieille idée qui remonte à l'Antiquité parce que de tout temps, l'homme est mauvais et il veut prendre ce qui ne lui appartient pas. Une des industries malheureusement les plus florissantes en France, ce sont les serrureries. On vend des tas de... Au coin de chaque rue, il y a des serrureries et des pharmacies et des boulangeries. Il n'y a pas beaucoup d'églises. Dommage. C'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les civilisations. Et en construisant le tramway, les archéologues niçois ont trouvé des vestiges, des murailles de la ville. Je ne l'ai pas encore fait, mais on peut visiter les bases de la tour Pérolière près de la place Garibaldi. Et donc... C'était une réalité historique et là on voit comment Néhémie a mis tout le monde au travail. C'était très important que ça soit fait rapidement. si on construit des murailles, il vaut mieux pas laisser trop le temps aux ennemis de venir détruire l'œuvre que l'on est en train de faire. Il faut aussi qu'elle soit bien construite. Les Français avaient repris l'idée, ça leur a mal réussi parce qu'ils n'avaient pas bien compris ce qui se passait avec la fameuse ligne Maginot. Ils avaient mis la muraille là où cette fortification avant la Deuxième Guerre mondiale, là où ils attendaient, comme dans le passé, les attaques de l'ennemi. Et puis l'ennemi, il a été malin, il a dit pourquoi on va aller frapper dans la ligne Maginot. Contournons-la. Donc, lorsqu'on fait une muraille, il faut qu'elle soit complète. On ne doit pas laisser de trous. Et là, tout le monde s'y est mis, et on va voir des principes de gestion d'un travail, d'un projet, et on verra aussi la dimension spirituelle. Lisons ensemble, je lis dans la version La Colombe, page 487, Néhémie 3, verset 1. Éliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis, ils la consacrèrent et en fixèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananaël. À côté de lui, bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui, bâtit aussi Zaccour, fils d'Imri. Encore une fois, tous ces noms, on va en voir plein, ça montre que ce sont des récits historiques. Ça nous donne des indications, ça permet de faire des rapprochements, et c'est très très riche. Encore une fois, quand les archéologues n'ont pas encore trouvé une porte, ils vont voir ces textes pour continuer à creuser. Il y a des endroits où on ne peut pas faire des recherches en ce moment parce que c'est bâti. Mais dès que l'on peut, on met à jour et on retrouve tous ces vestiges. La trace de ces tours a été retrouvée pour la plupart d'entre elles. Donc, on voit ce mot « bâtir » qui va être répété. C'est du travail. On voit comment tout le monde s'y est mis, comment ils ont travaillé ensemble, comment ça a été coordonné et dirigé par Néhémie. Ils ont commencé par la porte des brebis, et c'est le souverain sacrificateur, donc le plus haut responsable religieux, Éliashib, qui descendait d'Aaron et de Moïse. Il s'est levé avec ses frères, les sacrificateurs. Donc, ce sont les prêtres qui se sont mis au travail. Ils ont bâti la porte des brebis. Ils l'ont consacrée, ils l'ont dédiée. Consacré à l'œuvre de Dieu. Et ils l'ont fait entre deux tours, la tour de Méa et la tour de Hananaël. Il y avait donc des portes, il y avait aussi des tours pour qu'on puisse surveiller ce qui se passait. Récemment, je voyais sur Internet, il y a un diagramme qui montre le château de Nice, une reconstruction en 3D, et on peut faire le tour du château à partir des vestiges qui ont été retrouvés. On voit là aussi qu'il y avait des murailles, il y avait des portes, et puis il y avait des tours pour veiller et surveiller ce qui se passait, est-ce qu'il y avait des ennemis qui s'approchaient ou non. Et la porte des brebis, on pense qu'elle était ainsi nommée parce que c'était par là qu'on faisait rentrer les brebis qui allaient être sacrifiées pour les fêtes religieuses, pour les sacrifices. Et c'était donc là où travaillaient Éliashib et les prêtres, les sacrificateurs, avaient tout intérêt à ce que cette porte fonctionne, que les brebis puissent continuer d'arriver. Verset 3. Les fils de Sénas, ou Sénat, bâtirent la porte des poissons, ils la charpentèrent et en fixèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travailla aux réparations Méremoth, fils d'Uri, fils d'Akots. À côté d'eux travailla Meshulam, fils de Berekia, fils de Meshézabéel. À côté d'eux travailla Tsadok, fils de Baana. À côté d'eux travaillèrent les Tekoïdes, dont les principaux personnages ne se soumirent pas au service de leur seigneur. On voit que pour la première porte des brebis, les responsables, là c'était des responsables religieux, n'ont pas hésité à se mettre au travail. Il n'y a pas de travail qui soit trop bas pour un enfant de Dieu, pour quelqu'un qui veuille servir Dieu. Souvent, quand on monte dans une échelle sociale, on trouve qu'il y a des travaux qui sont en dessous plutôt de notre dignité. Mais un vrai chrétien va montrer qu'il est prêt à ramasser des choses à mettre à la poubelle, aussi bien que d'expliquer un verset biblique ou de faire de l'évangélisation. Il n'y a pas de tâche qui soit en dessous de vous. Est-ce que faut que ce soit vraiment clair dans nos esprits. Il ne faut pas le dire en attendant que tout le monde le voit et dise « Oh, quel grand homme, il se baisse pour ramasser des mégots devant l'église. » Non, ça doit être fait pour le Seigneur. Vous le faites comme pour le Seigneur. Et Chuck Smith est un exemple, le fondateur du mouvement ou un des initiateurs du mouvement de réveil chez les hippies, le mouvement Calvary Chapel. Il est connu pour être quelqu'un qui va aider les bagagistes à sortir les valises d'un car, à balayer s'il y a besoin d'un coup de balai. Et ça, c'était aussi lorsqu'on a fait les travaux ici, tout le monde s'y est mis, les anciens comme les pasteurs, et il n'y a pas de... Au contraire, il faut même que ceux qui sont responsables montrent l'exemple en se mettant au travail. La porte des poissons, on pense qu'elle était ainsi nommée parce que c'est de là qu'arrivaient les marchands, les pêcheurs qui avaient attrapé des poissons en mer ou qui venaient de Galilée, du lac de Galilée, quoique ça faisait un peu loin à l'époque, sans réfrigération. Mais il y avait beaucoup de poissons séchés, et donc peu importe, c'était aussi sans doute parce qu'il y avait un marché aux poissons juste à l'entrée de l'autre côté de la porte. Et ce mot de réparation, ils bâtirent, ils réparèrent, ils fixèrent, on va le retrouver 35 fois dans ce chapitre seulement. C'est quelque chose qui est valable physiquement. Quand quelque chose ne fonctionne pas, vous devez le réparer. On a un problème avec une des portes en verre de l'entrée de l'église. Sans doute quelqu'un ou des gosses sont suspendus au poignet et maintenant elle ne s'ouvre plus très bien. On a peur quand on force de la faire tomber complètement. Et ça, c'est des détails pratiques, mais il faut que ce soit réparé. Donc même les portes de l'église ont besoin d'être réparées. C'est quelque chose qui est vrai aussi spirituellement, on va parler un peu de l'aspect spirituel des choses. Dans Éphésiens 4, 12, un passage qui est souvent cité pour vous encourager à servir dans l'Église, verset 11, parlant de Jésus-Christ, il est dit « C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs docteurs, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ. Les responsables qui sont, pour ainsi dire, donnés par Dieu à l'Église, ce n'est pas pour qu'ils fassent tout le travail eux-mêmes, c'est pour qu'ils équipent, qu'ils réparent les croyants, les saints, afin que eux fassent l'œuvre de service pour construire le corps du Christ. Le mot qui est utilisé pour perfectionnement, des fois ça sera le mot équiper, c'est le même mot qui veut dire aussi réparer ou guérir. Et on vient ensemble le dimanche pour s'encourager, pour se fortifier, pour se bâtir les uns les autres, pour être fort en vue de pouvoir vivre pour Jésus-Christ et de pouvoir le servir et à l'intérieur de l'Église, mais aussi à l'extérieur de l'Église. Il y avait dans le groupe, donc on cite des noms de personnes sont encore une fois précisés. C'est toujours intéressant lorsque on voit d'autres passages c'est souvent ceux qui font des recherches dans la parole, qui voient les liens entre ces choses. Mais on voit que non seulement il y avait les habitants de Jérusalem ou ceux qui étaient à Jérusalem, mais il y avait des gens de la banlieue qui sont venus aussi travailler, notamment les Tekoïtes qui venaient de Tekoa, qui est à une dizaine ou vingtaine de kilomètres de Jérusalem. Eux aussi venaient prêter main forte parce qu'ils savaient que Jérusalem était une ville clé, c'était là que se trouvait le temple. Et donc ça nous appelle à ne pas nous limiter à notre intérêt immédiat. Et une autre remarque qu'on peut faire aussi au sujet de Tekoïtes, c'est que leurs responsables ne se sont pas soumis au service de leur Seigneur. Autrement dit, leurs chefs n'ont rien fait. Et l'Esprit Saint est gracieux, il donne les noms de ceux qui ont bossé, mais il ne donne pas le nom de ceux qui ont refusé de servir. Et pourtant, on peut croire que leur Seigneur, c'était Dieu qui n'ont refusé de servir dans ce travail qui était fait pour la gloire de Dieu. On parle souvent en statistique de la règle des 20-80. C'est une règle statistique qui décrit souvent comment se passent les choses en disant que, par exemple, c'est 20% de nos soucis qui vont prendre 20% des sujets de notre vie qui vont causer 80% de nos soucis. Ça s'applique aussi dans les organisations. C'est 20% des gens qui vont faire 80% du travail. C'est une triste réalité, mais elle ne devrait pas avoir sa place dans l'Église. Et pourtant, bien souvent aussi dans l'Église, parce qu'elle est influencée par le monde, on voit que 20% des chrétiens vont faire 80% de l'œuvre. Il y en a qui restent à distance, qui ne s'engagent pas et qui n'ont pas la joie. Néhémie va parler de cette joie du Seigneur. Ils n'ont pas la joie de voir les choses avancer grâce à ce qu'ils font. Et quand on avait travaillé sur ces locaux à l'époque, ou même récemment, il y a un an, sur l'électricité qu'on avait refaite en haut, c'est dur, mais il y a de la joie dans le travail. Parce qu'on avance, on travaille ensemble aussi. Il y a une chose très importante, c'est la communion qui existe lorsqu'on fait quelque chose ensemble. C'est pour ça que les anciens combattants aiment bien se retrouver. Ils se racontent leurs vieilles histoires, ça barbe ceux qui n'étaient pas là. Mais il y a cette camaraderie, il y a cette communion de vie, de difficultés, de victoires communes qui est une chose très belle à cultiver. Je sais que les samedis, il y a un thé, une réunion pour les femmes. Et c'est vrai que les femmes, vous pouvez vous rencontrer et avoir une profonde communion en partageant, parce que vous aimez parler et communiquer, dire ce qu'il y a sur votre cœur. Et c'est pas du sexisme. Là aussi, les statistiques le disent. Vous dites 3 fois plus de mots que nous à la fin de la journée. Pour nous les hommes, si je dis aux hommes qu'on va prendre un thé et on va partager, je peux vous garantir que ça va pas être la foule. Par contre, si je dis on va réparer les portes, on va repeindre le local, là les gars vont être plus touchés et sans doute davantage de participants se trouveront là. Mais quelle tristesse pour ces chefs de Tekoa d'être connus dans l'histoire pour l'éternité comme ceux qui n'ont rien fait. Alors, on n'essaye pas de manipuler, mais souvent, vous passez à côté de quelque chose de très beau lorsque vous ne vous impliquez pas dans la vie de l'Église. Il y a des gens ici qui n'ont aucune fierté bafouée parce qu'ils viennent faire le ménage. C'est sympa quand on arrive le dimanche matin, qu'il fait soleil, que tout est impeccable, ou presque, qu'il n'y a pas de poussière, qu'il n'y a pas de que vos pieds ne collent pas sur le parquet parce que quelqu'un a pris la peine de passer la serpillière sans rechercher à être connu. Des fois, si je les vois, ça m'arrive de prendre quelques photos, mais elles vont pas sur Facebook. C'est juste pour mon souvenir personnel. Servir, c'est pas pour nous exploiter que le Seigneur nous demande de servir. Il sait que nous sommes bénis quand nous le servons. Il y avait à partir du verset 6, on va lire 6 à 12, on va voir ceux qui construisaient près de la vieille porte. Yoyada, fils de Paséa, et Meshulam, fils de Bézodiab, réparèrent la vieille porte, ils la charpentèrent et en fixèrent les battants, les verrous et les barres. Donc on voit aussi comment ils construisaient. Quand on va en Israël, on voit l'importance des portes, comment elles étaient construites, comment elles étaient souvent en chicane, pour permettre aux défenseurs d'attaquer les assaillants en les isolant entre des battants. Les verrous et les barres. À côté d'eux travaillèrent Mélatia le Gabaonite, Yadon le Méronotite, les hommes de Gabaon et de Mitzpah ressortissant au siège du gouverneur de la province de ce côté du fleuve. À côté d'eux travaillèrent Uziel, fils de Haraya, d'entre les orfèvres. Et à côté de lui travailla Anania, d'entre les parfumeurs. Ils achevèrent Jérusalem jusqu'à la muraille large. À côté d'eux travailla Réphaïa, fils de Our, chef de la moitié du district de Jérusalem. À côté d'eux travailla vis-à-vis de sa maison Yedaya, fils de Harumaf. Et à côté de lui travailla Hattush, fils de Hachabnia. Un autre secteur de la muraille de la tour des fours fut réparé par Mekia, fils de Harim, et par Hashub, fils de Pahat Moab. À côté d'eux travailla avec ses filles Shalum, fils d'Aloesh, chef de la moitié du district de Jérusalem. Encore une fois, on voit des gens de tous les milieux se mettre à l'œuvre. Et il y a du travail pour tout le monde. Quand on sert le Seigneur, on n'est pas tous obligés de frapper, de détruire un vieux mur pour le reconstruire. Quoique des fois des femmes ou des très jeunes peuvent aimer faire ça. Je me souviens, il y avait là où Ali et Alex sont assis, il y avait une partie du local, c'était des murs en parpaing, et on avait eu une équipe qui était venue, on les avait détruits à coups de masse. Et le Seigneur m'avait protégé parce que j'étais volontaire, mais j'étais pas très doué. Et le mur s'était tombé d'un seul coup, toute le mur, et ça sur mon pied. Et pour une raison inconnue, j'ai pas souffert de fracture ou de blessure. J'ai juste eu un petit peu mal. Mais tout le monde travaillait ici. Aussi bien, il y avait à l'époque aussi des guildes, un peu l'équivalent de nos syndicats, ou des orfèvres qui travaillaient ensemble, qui étaient connus, des parfumeurs, il y avait des spécialités d'artisans qui travaillaient ensemble. Et là, on voit qu'il y a même Uziel qui était un bijoutier, et puis Anania qui était un parfumeur. Peut-être c'était un nez, comme on dit à Fragonard, quelqu'un qui pouvait... Mais peu importe, ce qui est remarquable, c'est que on n'a pas l'idée, aujourd'hui, si on voulait travailler, chercher des ouvriers pour le bâtiment, Pôle emploi n'aurait pas l'idée de demander aux parfumeurs si ça les intéresse ou si ça intéresse les orfèvres, les bijoutiers. Et apparemment, on se dit que c'est plutôt des métiers un peu pour des gens qui sont un peu raffinés, qui n'auront pas envie de faire du gros œuvre. Et pourtant, ils s'y sont mis et ils ont construit, ils ont fait des grands morceaux de murailles. Ils ont rejoint ce qu'on appelle la muraille large, qui est une muraille perpendiculaire qu'on retrouve encore aujourd'hui. C'était des gens qui avaient des grandes responsabilités. Il y avait Refaïa, qui était de la famille du chef de la moitié du district de Jérusalem. Aujourd'hui, on dirait que c'était le fils du maire ou de l'adjoint au maire qui était là, qui travaillait aussi. Il y avait une chose qui revient, c'est à côté. Ils travaillaient les uns à côté des autres. Il y avait cette coopération. Ils ne se marchaient pas les uns sur les autres. Et là aussi, un bon leader va organiser le travail de façon que tout le monde puisse participer sans qu'il y ait de conflits, sans qu'il y ait de choses refaites par les uns, par les autres. Il y avait la tour des fours, qui était sans doute à côté des fours, d'un quartier où il y avait des fours pour cuire le pain. Et puis, on voit même que dans le travail manuel, essentiellement à ce moment-là, il y avait les filles de Shalom qui travaillaient avec lui. Et lui, c'était le chef de l'autre moitié du district. Donc c'était des filles de la haute société. Aujourd'hui, elles iraient acheter dans les beaux magasins de Nice. Mais elles venaient mettre la main à la pâte, elles venaient prendre la truelle et réparer les battants. Le travail n'est pas précisé, mais il y a tout un tas de travail. Il faut nourrir ces ouvriers. Donc peut-être que ces jeunes filles préparaient de la nourriture, c'est pas précisé, donc on peut imaginer ce qu'on veut, mais elles participaient à l'effort commun. On se souvient pendant la dernière guerre mondiale aux États-Unis, les femmes des soldats se sont mises à travailler dans les usines d'armement, notamment à Seattle, chez Boeing, pour construire les B, à l'époque, je ne sais plus si c'était 17, hein, c'était pas les 52 encore. Et la maman de Nancy a travaillé comme pour construire, pour aider à la construction de ces instruments de guerre. C'est un effort commun, global, qui est demandé. Tout le monde. Il y en a pas qui disent non, je peux pas parce que j'ai des enfants. Tout le monde peut se mettre au travail. Lisons. En fait, non, j'ai une remarque très intéressante qui m'a frappé pour dire encore que la Bible, si on la lit avec un cœur ouvert, elle peut vous montrer des choses qui sont utiles aujourd'hui. Il y a un homme, en les années 70, du nom de Viggo Olsen, qui a aidé à la reconstruction de milliers, de dizaines de milliers de maisons dans l'état du Bangladesh qui avait été ravagé par la guerre avec le Pakistan. Et il a, en lisant ce passage, c'était un chrétien, il a réalisé que ce qu'il fallait, ce n'était pas seulement des experts en construction, des ouvriers du bâtiment. Il avait vu que là, dans Néhémie, il y avait aussi bien des parfumeurs, des orfèvres, des bijoutiers, des prêtres, des personnes qui aidaient les prêtres, des femmes. Et ça lui a donné l'idée d'ouvrir ses chantiers à n'importe qui. Et ça lui a permis de faire beaucoup plus de travail que s'il avait limité, a priori, sa recherche d'ouvriers à des hommes experts en maçonnerie ou en charpente. Mais ce qui est frappant, c'est que cet homme dit que c'est en lisant ce passage, ce chapitre 3, qu'en 1972, il a trouvé des idées pour avancer. Et ça, moi, ça doit nous donner un cadre d'attente lorsqu'on lit la Bible. Dieu peut nous parler de façon très pratique, des fois de façon très spirituelle, de façon des fois symbolique, mais même pour des choses pratiques. Encore une fois, la médecine fait des progrès en prenant ce qui se passe dans la Bible à la lettre et en étudiant. Et en se demandant pourquoi est-ce que l'on circoncisait un enfant le 8e jour après sa naissance. Ben, c'était comme ça, c'était la tradition. Et à la fête de Noël, ben, la circoncision, c'était 8 jours après. Non. En faisant des recherches, ils sont aperçus que c'est là qu'il y a le maximum d'anticorps dans le corps humain. Il n'y a pas un moment d'autre dans la vie où le corps est capable de résister au mieux à une agression. Et donc, à l'époque, il y avait des dangers plus grands d'infection. Et Dieu avait justement demander que ce soit le 8e jour. Dieu nous dit, vous construisez quelque chose, faites bosser tout le monde. Les gosses, les femmes et les enfants d'abord. Non, il ne dit pas ça, mais on verra par la suite, au contraire, qu'il y a des rôles qui sont respectés, de protection et de... Mais aujourd'hui encore, on peut voir les restes de cette muraille dont il est question. La grande muraille, ça c'est intéressant. Et il y a quelques années, on avait essayé d'organiser un voyage en Israël avec des visites de lieux et justement d'essayer de voir ces murailles ou les restes de ces murailles. J'espère qu'on aura l'occasion d'organiser ça dans un proche avenir. On va continuer. Donc on fait en fait le tour de la ville dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et on arrive maintenant à la porte, chapitre 13. Anour et les habitants de Zanoa réparèrent la porte de la vallée. Là encore, ils la bâtirent. Ils en fixèrent les battants, les verrous et les barres. Ils firent de plus 1000 coudées de la muraille jusqu'à la porte du fumier. On a des portes en verre qu'on aimerait bien installer pour le café, de façon à ce que ce soit pas fermé quand on est là et que les gens puissent voir qu'il se passe quelque chose. Mais on a un problème parce qu'on n'a pas des battants assez solides. On n'a pas des verrous et des barres assez costauds pour supporter le poids de ces barres. On a des portes en très légères, en bois et carton. En général, vous savez que les petites portes, c'est du carton... ondulé qu'on met à l'intérieur pour que ce soit légère, pas chère, etc. Mais si parmi vous, il y en a qui savent faire ces choses, fixer les battants, les verrous et les barres, sachez qu'on a, on a des portes à monter ici. Donc ça, c'était la porte de la vallée. Et puis, on passe à la porte du fumier. La porte de la vallée, c'était bien sûr là où était la rivière, la vallée. Il y avait la porte du fumier qui était la porte où l'on mettait les ordures. C'était la porte où l'on mettait les choses qu'on voulait jeter. C'était près de là, lorsque Jésus parle de la Géhenne, c'est la vallée de Hinnon. C'était la porte qui donnait là-dessus, c'est là que brûlait sans arrêt une décharge publique. Aujourd'hui, on a pas de décharge, on a des usines d'incinération. Et Jésus disait que la Géhenne, elle ne s'arrêtait jamais de brûler parce qu'il y avait toujours des choses, et c'était un endroit sale qui sentait mauvais. Aujourd'hui, maintenant, on a des usines d'incinération, il y en a une dans le quartier de l'Ariane, et là aussi, ça s'arrête jamais de fumer. C'était un symbole d'un châtiment éternel qui ne cesse pas. Verset 14, Malkia, fils de Rekab, chef du district de Beth Hakerem, répara la porte du fumier, il la bâtit, en fixa les battants, les verrous et les barres. Verset 15, Shalum, fils de Kol-Ozé, chef du district de Mitzpah, répara la porte de la source, il la bâtit, la couvrit, en fixa les battants, les verrous et les barres. Il fit de plus la muraille de l'étang de l'émissaire près du jardin du roi, jusqu'aux marches qui descendent de la cité de David. Donc là, on parle de la fontaine ou la source. Et il y avait un étang à côté, la muraille de l'étang, donc ils font des grandes portions de muraille. Derrière lui, verset 16, derrière lui, Néhémie, fils d'Azbouk, chef de la moitié du district de Bessour, travaillait aux réparations jusque vis-à-vis des tombeaux de David, jusqu'à l'étang artificiel et jusqu'à la maison des héros. Derrière lui travaillèrent les Lévites, donc les religieux. Réhoum, fils de Bani, à côté de lui, travailla pour son district. Achabia, chef de la moitié du district de Keïla. Derrière lui travaillèrent leurs frères Bavaï, fils de Hénadad, chef de la moitié du district de Keïta. Et à côté de lui, Ézer, fils de Josué, chef de Mitzpah, répara un autre secteur vis-à-vis de la montée de l'arsenal à l'encoignure, à l'angle de la muraille. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils travaillent à côté de chez eux. Ils travaillent à côté de chez eux, ils travaillent là où ils habitent, autant que faire se peut, sauf pour ceux qui viennent de l'extérieur des banlieues. On y reviendra, mais c'est une bonne chose. Ils ne perdent pas du temps dans leur temps de transport pour se rendre à leur endroit de travail. C'est quelque chose qui m'avait toujours surpris. Je me disais, pourquoi à Paris, quand j'étais gosse, pourquoi est-ce que les gens devaient aller travailler à 20 kilomètres? Pourquoi est-ce qu'ils n'allaient pas habiter à côté de l'usine? Mais c'est pas, bien sûr, avec l'histoire et des tas de facteurs, c'est pas aussi simple que ça. Mais là, autant que faire se peut, ils habitaient à côté de l'endroit où ils travaillaient. Non seulement ça sauvegardait leur temps de travail, ça faisait aussi qu'ils étaient motivés de bien travailler. Parce que ça les concernait. Si la muraille était mal faite, si la porte tombait, c'était eux qui seraient les premiers envahis, c'était leur famille qui serait les premières touchées. Verset 20, derrière lui, Baruc, fils de Zabaï, répara avec ardeur une autre partie, avec ardeur. Tout ce que vous faites, faites-le comme si c'était pour le Seigneur. Même une tâche qui ne vous plaît pas, un travail qui vous ennuie, vous avez la possibilité de le faire, faites-le du mieux que vous pouvez. Demandez à Dieu de vous aider à le faire. Et vous serez surpris de voir comment votre travail va être apprécié. Rouspéter lundi matin parce qu'il faut aller travailler, le turbin, j'en ai marre, je suis fatigué, vivement le week-end. C'est pas quelque chose qui va vous faire sortir du lot. Parce que tout le monde se plaint. Surtout en France, mes amis. Tout le monde rouspète. Et quelqu'un qui est positif, quelqu'un qui arrive le lundi matin avec le sourire, avec de l'énergie et qui fait de son mieux pour faire bien son travail, il va être très rapidement remarqué. Ça va lui ouvrir des voies pour avoir plus de responsabilités, avoir un travail plus intéressant. Et je le répète dès que j'ai l'occasion, parce que je l'ai vécu et je sais que c'est la vérité. Je sais que c'est pas en disant, en tirant une tronche de 10 mètres en disant j'en ai marre, je le fais, mais je préférerais faire autre chose. Si vous trouvez un emploi qui correspond pas à vos capacités, prenez-le. Ça va vous donner, plutôt que de rester au chômage, ça va vous donner une structure de temps. Vous n'allez pas être toute la journée à vous traîner. Alors je sais que bientôt, maintenant, avec le système tel qu'il est, on perd de l'argent à aller travailler plutôt que de rester au chômage. Ça, c'est regrettable et j'espère que c'est quelque chose qui peut être corrigé. Une incitation à aller bosser. Travailler plus ou travailler simplement pour gagner plus, c'est quand même une motivation plutôt que d'aller travailler pour gagner moins. En restant au chômage. Il travaillait avec ardeur. Il avait reconstruit une autre partie depuis l'angle, verset 20, depuis l'angle jusqu'à la porte de la maison d'Eliashib, le souverain sacrificateur. Derrière lui, Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akots, prépara un autre secteur depuis la porte de la maison d'Eliashib jusqu'à la maison de l'extrémité de la maison d'Eliashib. Derrière lui, travaillaient les sacrificateurs habitants de la plaine. Derrière eux, Benjamin et Hachoub travaillèrent vis-à-vis de leur maison. Encore une fois, la proximité de leur engagement vis-à-vis d'eux-mêmes. Derrière eux, Azaria, fils de Maaseïa, fils d'Anania, travaillait à côté de sa maison. Même idée. Derrière lui, Binoui, fils de Enadad, répara un autre secteur depuis la maison d'Azaria jusqu'à l'encoiture et jusqu'à l'encoignure et jusqu'à l'angle. Palaï, fils d'Uzaï, travailla vis-à-vis de l'encoiture et de la tour supérieure qui fait saillie depuis la maison du roi. On a plein de renseignements, de descriptions qu'utilisent les archéologues. Derrière lui travailla Pédaïa, fils de Paréoc. Les Nétiniens, demeurant sur l'Ophel, travaillèrent jusqu'à vis-à-vis de la porte des eaux, une autre porte à l'est, et de la tour ensaillée. Derrière eux, les Técoïtes, dont on a déjà parlé, pas leur chef, mais les travailleurs réparèrent un autre secteur vis-à-vis de la grande tour en saillie jusqu'au mur de l'Ophel. 28, au-dessus de la porte des chevaux, une autre porte, les sacrificateurs travaillèrent chacun devant sa maison. Encore une fois, les gens sont motivés de travailler parce qu'ils savent que ça va les protéger. Derrière eux, Tsadok, fils d'Immer, travailla devant sa maison. Derrière lui, travailla Shemaïa, fils de Shekania, gardien de la porte de l'Orient. Derrière eux, Anania, fils de Shelemia et Hanoun, le sixième fils de Tsalaf, répara un autre secteur de la muraille. Derrière eux, etc., travaillait vis-à-vis de sa chambre. Lui, il était probablement célibataire. Pourquoi ? Il habitait dans une chambre. Il avait juste un petit studio. Mais il travaillait autant que les autres. Et derrière lui, Malkia, d'entre les orfèvres, travailla jusqu'aux maisons des Nétiniens et des commerçants vis-à-vis de la porte de Mifkad, c'est la porte d'investigation ou d'examen, et jusqu'à la chambre haute de l'angle. Et les orfèvres et les commerçants travaillaient entre la chambre haute de l'angle et la porte des brebis. On est revenu à la porte des brebis après être passé par toutes ces portes et toutes ces portions de muraille. Si on regarde bien, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont travaillé à plus d'endroits. Lorsqu'ils avaient travaillé et qu'ils avaient fini, ils allaient aider quelqu'un d'autre. Et là aussi, c'est quelque chose qui doit nous animer quand on fait quand on sert dans l'Église, notamment, de prêter main forte à ceux qui débutent. Si on a fini notre travail, on part pas à la pêche, on va aider les autres. La solidarité dans le travail. Ça, c'était quelque chose qui a permis, on verra qu'en fait la muraille qui avait été en mauvais état pendant très, très longtemps, elle a été reconstruite très rapidement. On y viendra plus loin. Ça nous montre encore une fois qu'en tant que croyants, on doit travailler ensemble pour accomplir quelque chose. Je n'ai pas besoin de toi ou tu n'as pas besoin de moi, ça n'existe pas dans la vie chrétienne. Nous avons tous besoin les uns des autres. Peut-être que vous venez, vous dites, mais personne ne me parle, je fais rien, c'est pas grave si je suis pas là. Non, si vous n'êtes pas là, il y a une partie du corps Paul, dans 1 Corinthiens, a expliqué que l'Église, c'est comme un corps composé de membres qui ont des rôles différents, qui ont peut-être plus ou moins de visibilité, mais qui sont tous aussi importants les uns que les autres. Votre plus petit doigt de pied, il vous est utile. J'en sais quelque chose parce qu'en jouant au volley, je m'étais cassé le petit orteil du pied droit. Et on se dit, bof, c'est sur le côté, il est tout petit, il va pas... Quand on n'a pas ce petit orteil, on ne peut pas marcher correctement. Parce qu'il nous donne un équilibre, il nous permet de dérouler tous nos doigts de pied. On ne va pas faire un cours de kinétique, là, de cinétique, mais... La plus petite portion est nécessaire à la vie du corps. Il n'y a pas de grands membres et de petits membres dans le royaume de Dieu. Tous, nous avons notre rôle à jouer, et ce rôle, il peut évoluer. C'est en montrant la fidélité dans les petites choses que Dieu nous donne, nous confie de plus grandes choses. Et souvent, on a des gens qui aimeraient, ils aimeraient tout de suite être pasteurs sans jamais avoir accompli ou assuré les petites tâches qui doivent être accomplies. Et encore une fois, ces tâches, elles n'ont pas de valeur intrinsèque, elles sont toutes nécessaires. Et à ce titre, elles ont toutes autant de gloire et de reconnaissance de la part de Dieu. Et elles devraient en avoir de notre part. Moi, je remercie toutes les personnes qui font des tâches que personne ne remarque, ceux qui découpent les activités pour les enfants, ceux qui passent du temps à nettoyer, à préparer les salles, ceux qui préparent le café, ceux qui vont acheter le café, toutes ces choses-là, c'est pas des petites choses, c'est des choses qui sont nécessaires à la vie du corps. Brièvement, on voit que, encore une fois, Néhémie, c'était un grand responsable parce que il avait donné à chaque personne, en les nommant, une responsabilité vis-à-vis de son propre travail. S'il y avait une porte qui n'était pas bien reconstruite, on savait qui l'avait fait. Il connaissait les gens qui travaillaient, il savait, il les nommait, il les citait, ils étaient reconnus. Il n'y a rien de plus terrible quand on travaille que d'avoir notre travail qui n'est pas reconnu. Ou on fait quelque chose de très bien et c'est votre patron qui va s'en attribuer la création et la gloire et des fois les espèces trébuchantes. Il savait organiser effectivement le travail. Il avait divisé, c'était une longue muraille, mais il avait donné des équipes. Il connaissait ces gens, il savait où ils habitaient et il leur avait donné des responsabilités. Il avait organisé le travail, effectivement. Souvent, lorsqu'on est face à un travail, on est paralysé parce que c'est trop grand. Alors qu'en fait, le secret, c'est pas d'être paralysé, le secret, c'est d'être organisé, de diviser le travail de façon cartésienne et de dire, voilà, chacun peut s'occuper d'une partie. Il savait comment s'y prendre. Il avait consacré le travail. Il avait fait consacrer cette tâche. Elle avait cette dimension spirituelle. On a vu qu'il faisait travailler tout le monde, les femmes, les enfants, les parfumeurs, les pompiers ou les destructeurs et tout le monde avait sa place. Il laissait tomber les préjugés vis-à-vis des métiers féminins ou des métiers masculins. Il avait donné de s'intéresser à leur propre quartier, à leur propre maison. Et ça, c'était un succès, un gage de succès. Si on les avait envoyés à l'autre bout de la ville, ils auraient été moins tentés de faire de leur mieux. Et encore une fois, c'est des aspects de gestion pratique. Il y a une autre interprétation, ou plutôt quand on parle de ce message, vous trouverez chez certains commentateurs une description spirituelle qui est le message des portes. Le message des portes, on l'a évoqué en disant que nous sommes les brebis, on part par la porte des brebis, nous sommes des brebis et nous sommes sauvés par l'agneau de Dieu. À côté de ça, il y a la porte des poissons. Alors bien sûr, nous sommes appelés à être des pêcheurs d'hommes, pas des pêcheurs de poissons. Il y a la vieille porte, c'est la vieille vie qu'il faut laisser derrière. Il y a la porte de la vallée, c'est la porte où l'on... La vallée, c'est souvent synonyme d'humiliation, de simplicité. On se la pète pas, comme on dit vulgairement. On est dans l'humilité. La porte du fumier, c'est la porte où on peut amener le péché dans nos vies. C'est un terme qui peut, de façon surprenante, par ses commentateurs, être pris comme un symbole de la croix. C'est à la croix qu'on amène nos péchés, qu'on les laisse sur les épaules de notre Sauveur qui est mort pour nous. La porte de la source ou de la fontaine, ça fait penser avec la porte des eaux, ça fait penser à l'eau du Saint-Esprit, à l'eau de la parole qui vient nous purifier. La porte des chevaux, c'est la puissance de Dieu à l'œuvre en nous. C'est pas à nos chevaux que nous nous confions, c'est en l'Éternel que nous mettons notre confiance. Il y avait la porte de l'Orient qui était aussi appelée la porte d'or, parce que c'est par là qu'on voyait le soleil se coucher, et c'est un symbole de la gloire de Dieu, et on revient à la porte des brebis, la porte de Jésus, Jésus qui est le commencement, l'alpha et l'oméga de notre foi. Je suis pas intimement convaincu qu'il faille lire toutes ces choses dans le texte. C'est une possibilité. Pour moi, ce qui compte, c'est d'abord l'aspect pratique et les leçons pratiques. Et puis, on peut voir là aussi, quand on lit un passage dans la Bible, il est toujours bon de se dire « Où est Jésus ?» Et Jésus, il est la porte par laquelle nous entrons. « Je suis la porte » nous disait Jésus dans Jean, si vous entrez, vous trouvez des pâturages et vous trouverez la vie. Voilà donc ce passage que, a priori, on laisserait tomber, qui peut être riche en enseignements pratiques et aussi spirituels et même de bon sens. Voilà, je vous invite à prier maintenant. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour sa richesse, même dans ces passages un peu ardus qui nous semblent tellement détachés de nos préoccupations quotidiennes, qui nous semblent être de l'archéologie plus que de l'instruction pratique. Seigneur, merci de nous avoir montré les pistes pour réfléchir sur ces textes, que ton Esprit Saint fasse son œuvre, qu'il complète, notre approfondissement de la parole. Dans le nom de Jésus, Amen.